Ok, donc on va démarrer notre quatrième cours d'introduction sur la Tfila. Et après, Bezrat Hashem, on pourra démarrer donc la traduction et l'explication de la Tfila même. Donc jusqu'à présent, on a pu expliquer, on a pu traiter beaucoup de sujets autour de la Tfila. On a pu expliquer est-ce que la Tfila, ça a été instauré par les Chachamim ou est-ce que c'est par la Torah. Donc on a pu expliquer la machloquette qui est entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide. On a expliqué aussi l'importance de la Kavana dans la Tfila, dans quelle partie de la Tfila la Kavana est obligatoire, et dans quelle autre partie la Kavana est aussi obligatoire, mais si on ne l'a pas eu, on est quand même quitte. On a expliqué beaucoup de choses, on a expliqué aussi pourquoi a été instaurée la Tfila, qui a instauré quelle partie de la Tfila, Abraham, Yitzhak, Jacob. Et là aujourd'hui maintenant, dans notre quatrième cours, on va parler de ce qu'on appelle Matbea, Shetavu Chachamim Betfila. Ça veut dire quoi, Matbea Shetavu Chachamim Betfila? Ça veut dire, on va parler maintenant du texte de la Tfila. Jusqu'à présent, on a parlé de l'importance de la Tfila, de la globalité de Shacharit, Mitra, Arvit. Mais on ne s'est pas encore focalisé sur le texte de la Tfila. Et comment ça se fait qu'on voit qu'il y a une telle différence entre les livres de prière sur le texte de la Tfila. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Matbea Shetavu Chachamim Batfila. Matbeach Tabou Khamim Bitfila, c'est-à-dire le texte que les Khamim ont fixé. Tout d'abord, une question très simple qui est posée par les commentaires. Ils se demandent, si tu me dis que la Amida a été instaurée par Anshe Knesset HaGedola, par les gens de la Grande Assemblée, comment ça se fait que d'un texte qui a été instauré par les gens de la Grande Assemblée, quand on voit aujourd'hui le nombre de sidour qu'il y a, il n'y a pas un sidour qui a la même Amida que l'autre? Bien sûr que globalement, c'est la même Amida, mais il y a des nuances. Comment c'est possible? Des petites différences. D'où sont venues ces différences? Comment ça se fait qu'il y a des différences comme ça?
C'est léger comme différence.
Oui, mais il y a des différences. D'où c'est venu ces différences?
La bracha, c'est la même, finalement.
Bien sûr, ça, le sens est le même.
C'est
des fois, des mots qui changent. Des fois, ça change un petit peu le sens.
D'accord?
C'est pas des grandes différences. C'est pour ça qu'un peut rendre quitte l'autre. Mais c'est des différences quand même. D'où sont venues ces différences? Alors, une des explications qui est dite sur ça, c'est quoi? C'est que, à l'époque de la Gemara, on a le principe de la Gemara Gittin qui nous dit la chose suivante, Dvarim Shebealpe, Iatarasha Ilomran Birtav. Que tout ce qui se transmettait à l'oral, on n'a pas le droit d'écrire. C'est un principe. C'est pour ça qu'à l'époque, on n'a pas le droit d'écrire la Gemara, on n'a pas le droit d'écrire la Mishnah, puisqu'on avait un principe que tout ce qui se disait, tout ce qui se transmettait à l'oral, n'avait pas le droit d'être écrit, d'être couché sur papier. D'accord? Donc, le problème, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Torah Shebirtav, l'autre on appelle Torah Shebealpé. On a la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est écrit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a donné la permission d'écrire uniquement la Torah écrite. Mais la Torah orale devait se transmettre de maître en élève. D'accord? C'est pas que ça reste couché sur papier. Donc du coup, la Tfila rentre dans cette catégorie. Puisque le texte de la Tfila fait pas partie de la Torah écrite, ça fait partie de la Torah orale. Donc du coup, la Torah la Tfila, ça se transmettait de maître en élève et donc de fidèle en fidèle. Donc ça serait une des raisons qui explique pourquoi il y a tellement de nuances dans l'Amida, puisque étant donné que le texte n'a jamais été écrit, il a été écrit que des centaines d'années plus tard, mais à la base il n'était pas écrit, il était transmis de personne en personne. Donc c'est comme le système du téléphone arabe,
de bouche à oreille.
D'accord, de bouche à oreille, il y a toujours des petites déperditions. Alors on n'en a pas beaucoup, mais il y a des nuances. Quand il y a peut-être des fois quelqu'un qui a mal écouté, etc. Donc du coup on a des nuances. D'accord? Ça c'est un premier point, à comprendre. Plus que ça, on voit que même lorsque plus tard à l'époque de la Gemara, les Chachamim se sont rendus compte que les gens, lorsque les Chachamim se sont rendus compte.
Tu as enlevé le téléphone avant ça.
Voilà.
C'est pas très catholique tout ça.
Lorsque les Chachamim se sont rendus compte que les gens avaient du mal à retenir tout ce qui était la Torah orale, donc ils ont donné la permission d'écrire la Gemara. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même à ce moment-là, on n'écrivait pas encore le Shmoneh Esrei, l'Amida. Les gens s'en souvenaient par cœur, donc du coup on n'a jamais eu besoin de l'écrire. Ça veut dire qu'on a commencé à écrire le Shmoneh Esrei que bien bien plus tard. Quand on cherche dans la Gemara, la seule chose qu'on retrouve, on retrouve pas la longue Amida, on retrouve l'Amida courte. Vous savez ce que je vous ai expliqué la dernière fois, que quand on n'a pas le temps de lire l'Amida, on lit la Mida Kour qui s'appelle Avinenu Hachem. D'accord, on vous avait montré le monsieur la dernière fois. C'est un certain Sidourim Ashkenaz. On a la Mida Kour en trois lignes. D'accord, pour celui qui n'a pas le temps de faire toute la Mida. Mais le texte complet de la Mida, il n'est pas écrit dans la Gemara. D'accord, il n'est pas écrit dans la Gemara. Alors, pourquoi il n'a pas été écrit dans la Gemara? Le Rashba explique la chose suivante. Il dit qu'en vérité, les Chachamim n'ont pas voulu écrire le texte de la Mida dans la Gemara, parce qu'ils ont voulu laisser la place aux générations suivantes, si peut-être ils voulaient rajouter certaines choses dans la Mida. D'accord. Donc, le Rashba, il dit que ce serait peut-être la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas écrit le texte de la Mida. Donc, ça serait la raison pour laquelle aujourd'hui on voit que on analyse les différences entre un Sidour et un autre, on voit qu'il y a des différences. Il n'y a pas des grandes différences, mais il y a des différences. Pourquoi? Quelque part, c'est un peu voulu par les Chachamim. C'est un peu voulu de ne pas donner un texte qui ne bouge pas. Parce qu'on a des textes qui ne bougent pas. Vous prenez par exemple le texte de la Torah. À part quelques deux, trois endroits dans la Torah où, par exemple, où on n'est pas sûr comment ça s'écrit. D'accord? Par exemple, Petsoua Dakar, on ne sait pas si ça s'écrit avec un Aleph ou avec un E. Mais 99,9% des mots de la Torah n'ont pas bougé. D'accord? Ça fait 2000 ans, ils n'ont pas bougé. Pourquoi pour la Tfila, c'est pas comme ça? On vient d'expliquer parce que la Tfila s'est transmise à l'oral. Puisqu'elle était transmise à l'oral, et ben, il y a eu beaucoup de déperditions. D'accord? Ça, c'est un premier point que je voulais expliquer. Alors. Oui. D'accord. Donc ça, c'est un premier point qui a été expliqué. Maintenant, la question a été posée après à l'époque du Tour. Donc le Tour, c'est l'ancêtre du Shulchan Aruch. La question a été posée, étant donné que tu m'expliques qu'en vérité, les Chachamim, s'ils n'ont pas écrit le texte de l'Amida, c'est parce que les Chachamim voulaient donner la place pour la génération suivante. Alors, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai le droit de changer le texte de l'Amida? Par exemple, si j'ai envie de rajouter quelque chose, ou je sens qu'une bracha n'exprime pas assez, surtout quand on verra la traduction, est-ce que je peux rajouter ou pas? Alors, écoutez bien ce que nous dit le Tour, d'accord? Le Tour, il nous dit comme ça, il nous dit, dans les brachot du Shmoné Esrei, dans les bénédictions de l'Amida, on ne peut pas changer de ce que les Chachamim ont donné. C'est-à-dire que le texte qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus changer. La seule bracha sur laquelle on a le droit de rajouter, c'est dans la bracha de Shema Kolenu. Shema Kolenu Hashem Elokeinu. Juste avant de dire qui attache Shema Tfilat Kolpe, là le Shulchan Aruch dit, une personne qui sent qu'il a une certaine demande, il ne sent pas, bien qu'en vérité, il faut savoir que toutes nos demandes sont incluses dans le Shmoné Esrei. Il n'y a pas une demande qui n'est pas incluse dans le Shmoné Esrei. Il y a des nuances de mots, il y a des jeux de mots, tout est inclus, il n'y a pas une chose qui n'est pas incluse. Mais si une personne sent qu'il n'a pas demandé explicitement, vous savez, des fois les gens ils ont besoin de parler dans leurs mots, juste avant de dire qui attache Shema Tfilat Kolpe dans Shema Tfilat, il peut s'adresser à Dieu soit en hébreu, soit en français, soit par la parole, soit par la pensée. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il peut. C'est écrit en Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il sent qu'il a besoin de parler à Dieu, c'est à ce moment-là. Mais le reste de la Amida, on ne change pas. Par exemple, c'est pas du style, le gars il fait la bracha, Refaenu Hashem Veneraphe, ben d'accord, guérinu Hashem, et il dit, attends, entre temps, puisque je fais déjà la bracha Refaenu, alors pense aussi à un tel, pense aussi à un tel. Ou bien quand il fait la bracha suivante, Barechenu, d'accord? Ou Barechalenu. Il va dire, Akadosh Baruch Hu, bénis la récolte, etc. Et en passant, il dit, et bénis aussi mon magasin. Eh pas, ça n'a pas le droit de rajouter.
Il y a des vieux, répare l'ascenseur en même temps.
Pas mal.
Si déjà.
D'accord. Et donc on nous dit qu'en vérité, pourquoi on peut rien rajouter dans l'Amida? Parce que dans l'Amida, tout est précis. Quand je dis tout est précis, ça veut dire que même des fois, le nombre de mots qu'il y a dans une bracha, c'est précis. Par exemple, d'accord. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a la première bracha. Dans la première bracha. D'accord? Dans la bracha, donc la première bracha, Elokeinu k'vavnu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Si vous comptez, on a 42 mots. 42 mots dans la première bracha. D'accord? 42 mots qui correspondent à quoi? D'accord? Qui correspondent à, comme il le dit ici, qui correspondent au pasouk. Ve'e Esra, le goy gadol. Baruch Avram, lequel est Lyon, et le pasouk qui est dative. Alors je vous explique de quoi ça parle. D'accord? Il explique qu'il y a certains psukim qui commencent avec un bet et qui finissent avec un mem. Donc bet et mem, ça fait combien? Mem, c'est 40, et bet, c'est 2. Juste pour vous donner un exemple. D'accord? Et de là, il explique, c'est le Midrash qui dit ça. Il dit que, de là, on voit que même le nombre de mots qu'il y a dans une bracha est calculé. C'est-à-dire pas seulement les mots, imaginez-vous. Même le nombre de mots qu'il y a dans une bracha, c'est calculé. On verra, on aura l'occasion d'étudier après dans le Baruch Shamar aussi. Baruch Shamar, le nombre de mots est calculé. Dans les brachot, des clés comme ça de la Torah, de la Tfila, même les mots sont, le nombre de mots est calculé. On verra après même le nombre de lettres. D'accord? C'est pour ça que, puisque chaque lettre est très importante dans la Mida, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser à rajouter même une lettre ou un mot. D'accord ? Parce qu'on voit que même les lettres sont très importantes.
On peut rajouter un paragraphe.
Dans le chemin Atfila, on a dit. Dans la bracha de chemin Atfila. C'est-à-dire dans l'endroit qui a été fixé par les Chachamim. Parce que là, c'est comme une certaine pause qu'on marque de, c'est comme une certaine pause qu'on marque dans la Mida. Ok ? Alors. D'ailleurs, en passant, hein, il y a un sidour qui s'appelle Sidour Chassidé Ashkenaz. Un sidour qui s'appelle le sidour de Chassidim d'Ashkenaz. On ne sait pas exactement qui l'a écrit. Mais dans ce sidour, il dit là-bas, il dit qu'il faut faire, donc ce qu'on vient de dire, de faire très attention de ne pas rajouter de mots dans la Amida. Et il dit, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, Simoulev, Anchet Serfat Veillé Ayam. Faites attention les gens de France, Veillé Ayam, et ceux qui habitent dans les îles de la mer.
Pourquoi?
Écoutez bien. Chez Sheker, Biminchem ou Bismolchem. Que le mensonge se trouve à votre droite et à votre gauche. Pourquoi? Chez Atem, Bodim il va frais, parce que vous inventez de votre cœur. Ou Mosifim, Kama ve Kama tema de filatrem, mais vous rajoutez des mots dans votre fila. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait une certaine mode en France, et dans les îles. Il y avait une certaine mode que les gens dans la Mida, quand ils se sentaient bien, ils étaient de bonne humeur, ils rajoutaient des mots. Ils rajoutaient des mots pour, comme ça, pour demander à Dieu.
D'accord? Hein.
Oh. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans ce sidour-là, ils disent attention, il faut casser cette mode parce que c'est assour, comme on a expliqué. Chaque mot est précis dans la Amida.
Quelle époque ça?
Je sais pas. C'est un sidour qui a été imprimé récemment, qui a été retrouvé récemment.
Ouais,
qui avait été perdu pendant la Shoah. Je sais pas.
Les mecs qui peuvent penser en français à la fin d'une.
Ça, il n'y a pas de problème. Hein, penser, c'est bon. On parle de parler, des gens qui ont rajouté des mots.
Ah, d'accord. Comme
ça. Ça, c'est un problème. Alors, oui, ça j'ai expliqué ici, regardez, le Chida, d'accord, le Chida, donc, qui est un des grands sages de Sfaradim, il a écrit environ 70 livres, et dans un de ses livres qui s'appelle Chaim Shaal, qui a donc, c'est un livre qui a plusieurs volumes, dans volume numéro 2, il dit la chose suivante, il dit chez Noda, c'est connu, chez Kol Yenat Filot, que toutes les filotes en général, mais Yusad Alpi Razeolam sont basées sur des secrets du monde. Ça veut dire que nous on croit que c'est des choses simples, mais en réalité c'est des secrets. Kim Voab Zohar Kadosh ou Bekitva Arizal, comme c'est expliqué dans le Zohar, dans les écrits du Arizal. Chez Akol Metukan ou Mesudar Bekavanot Alyonot. Que chaque mot de la Tfila a été fixé selon des Kavanot suprêmes. C'est à dire que nous quand on lit la Tfila on croit que c'est des choses basiques, mais en vérité ça correspond à des Kavanot extraordinaires. D'accord? Et regardez ce qu'il dit le Chida. Vous basez ta vie, Mashekatou, Brachot. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans la Gemara Brachot. Amar Lahem, Rabban Gamliel et Chachamim, que Rabban Gamliel s'adressait au Chachamim et leur a dit, Kloum Yashadam, Sheyodia et Taken Birkat Aminim. Il leur a demandé, est-ce qu'il y a un homme qui sait instaurer la Birkat Aminim? Alors, c'est quoi la Birkat Aminim? C'est la bracha de la 19e bracha qui a été rajoutée dans la Mida, la Minim et la Machine Mathétique. On a expliqué la semaine dernière, c'est une bracha qui a été instaurée lorsqu'on avait beaucoup de gens beaucoup de faillots, qui rapportaient. D'accord? Donc, on était obligé d'instaurer une bracha pour les contrer et pour demander à Kadosh Baruch Hu d'arrêter cette mode et cette tendance. Et la Gemara nous raconte que Rabban Gamliel, il s'est tourné vers les sages et il leur a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'instaurer la bracha? De créer le texte de cette bracha. Et c'est écrit là-bas qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Shmuel Akatan, Shmuel le Petit, qui s'est levé et qui a instauré cette bracha. Le Chida pose la question, il dit, mais Velichora, il parle de l'Israël? On comprend pas. On n'a pas affaire à des gens simples ici, on a affaire à des Gdolé Israël, des grands du peuple juif. Kima Chochma Izo le Taken Dibrot Shtaim la Shana Kodesh. Qu'est-ce qui est de tellement compliqué de composer quelques lignes en hébreu? On parle pas, on n'a pas affaire à des imbéciles ici, on a affaire à des Chachamim. C'est des gens qui ont composé la Gemara, qui ont composé la Mishnah. C'est rien pour eux. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on voit que Rabban Gamliel est tourné vers les sages et leur a dit, qui va être capable de composer le texte de la Bracha de Minim, la 19e Bracha, et qu'on voit que moi, la Katane, on dit, ah, lui, il a réussi à composer cette bracha. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Tellement compliqué de composer une bracha. Va, filou, tinokot, et dinoshana kodesh, je dis, mais n'est takna. Même un enfant qui sait parler en hébreu. Tu lui dis, demande à Dieu d'éradiquer les faillots. Eh, il va te formuler un texte. C'est pas compliqué. Quelqu'un qui sait bien parler, qui maîtrise une langue, il peut former un texte. C'est quoi le problème ici? Pourquoi on voit que l'agmara nous fait un big deal, comme on dit en anglais de ça? Et là, Shebiyot, Shebechol, Od, Vod, Mabrachot, Sod. Dans chaque lettre des brachot, il y a un secret, Shetalou, Beichut, Vezivou, Kemidat, Alionot, qui correspond a des midot suprêmes, ça veut dire qu'il correspond au trait de caractère et à des choses que Kadosh Baruch Hu envoie. La reine tsarich chacham gadol. C'est pour ça que pour composer le texte de la tfila, il faut un grand sage, chez Ruach HaKodesh Shoreh Alav, qui est le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit. Le Ruach HaKodesh qui réside.
Oui, ils l'ont pris ce mot-là.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Qui réside sur lui, les Kaven et Varim, les fils d'âme, pour pouvoir être capable de composer le texte selon le secret des Rachamim. En passant, c'est pour ça que, après ce qui s'est passé dans la Shoah, on a eu beaucoup de gens qui ont voulu composer une kina, ce qu'on appelle, vous savez, ce qu'on lit à Tisha B'Av, ça s'appelle les kinotes, d'accord, donc des lamentations. Et il y a eu donc des Rachamim, il y a eu des gens qui ont dit pourquoi on n'instaurerait pas quelque chose sur la Shoah. On parle de son Beit HaMikdash, etc. Pourquoi on n'instaurerait pas quelque chose sur la Shoah. Bon, alors du coup, ils se sont concertés, etc. Mais du coup, ça s'était pas fait. Pourquoi ça s'était pas fait? Parce que les Chachamim avaient très peur. Ils avaient très peur de composer un texte, parce que comme ils savent l'importance d'un texte, ils se sont dit, on n'est pas au niveau. On n'est pas à la hauteur pour formuler un texte qui va correspondre à ce qui se passe en haut. Donc ils l'ont pas fait. Après, dans la génération suivante, il y a eu un Rav qui l'a fait, le Rav Vosner, si je ne me trompe pas, qui a formé un très beau texte sur la Shoah, qui est d'ailleurs à la fin des keynotes. Bon, il y en a qui lisent, il y en a qui le disent pas, mais ça veut dire que, pour nous montrer pourquoi ils avaient très peur, parce que c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que quand on s'est rendu compte que les rabbinis ne le faisaient pas, donc du coup on a eu des gens en Israël, des professeurs qui ont fait un texte, des gens littéraires, d'accord, qui avaient un don dans la langue, et qui ont écrit un texte. Ce texte, bien entendu, n'a pas été accepté, voilà, genre une prose. Il n'a pas été accepté. Pourquoi il n'a pas été accepté? Parce que nous, on sait que chaque mot de la tefila correspond à ce qui se passe en haut. Écrire des beaux textes, on sait tous écrire des beaux textes. Il y a des gens qui sont doués pour ça, en fait, quelqu'un écrit un beau texte, c'est pas la fin du monde. Pourquoi c'est tellement compliqué, les mots de la tefila? Et pourquoi c'est très important de rester attaché à ce qui est écrit? Parce que chaque mot, chaque lettre, correspond à des choses qui se passent en haut. Maintenant qu'on a compris ça, d'accord? Maintenant qu'on a compris ça.
Excuse-moi, tu n'as pas terminé le petit là. Pourquoi lui, il a composé?
Bon, parce que lui...
Il a eu une évoie de ça.
Je ne sais pas s'il a eu une évoie. Bon, il s'est senti prêt pour ça. Même encore aujourd'hui, c'est le texte qu'il a composé, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Oui, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on n'a plus des gens à la hauteur de l'époque, qui sont capables de formuler un texte qui correspond à ce qui se passe en haut. C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir ce qui se passe en haut. C'est ça, en vérité. Chaque mot de la tefila, nous, on croit que c'est... En vérité, c'est des codes. Chaque mot de la tefila, c'est un code.
Et c'était d'accord. À Katan. Alors, il a
dit... Alors, bon. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'on a compris ce concept, d'accord, on va analyser la différence qu'il y a entre les deux grandes tendances qu'il y a dans le monde juif aujourd'hui, qui sont donc le Noussar Ashkenaz et le Noussar Sfarad. D'accord, deux grandes tendances qu'il y a. Bien sûr, après, dans le Noussar Sfarad, vous allez avoir beaucoup de variantes, et dans le Noussar Sfarad, Ashkenaz, vous allez avoir beaucoup de variantes, mais de manière générale, c'est les deux grandes tendances qui sont dans le peuple juif aujourd'hui. C'est le Noussar Ashkenaz et le Noussar Sfarad. Donc, on va expliquer un peu ce que c'est le...
C'est rue Paul Enfer, c'est celle-là, c'est moitié-moitié.
Non, le rue Paul Enfer, c'est le Noussar Sfarad. Parce que rue Paul Enfer, le Noussar Chabad, c'est basé sur le Noussar Harizal. En vérité, la différence qu'il y a entre le Patach Eliyahu et le Tehillat Hashem, c'est que deux variantes du Noussar Harizal, c'est tout. Mais si vous prenez un Sidour Ashkenaz, vous serez vraiment perdu. Ah, c'est autre chose.
Mais avant, vous priez comment vous?
Toujours, on prie comme ça. Chabad, on prie le Noussar Harizal. Les Chassidim, ils prient le Noussar Harizal. Non. Les Chassidim, ils prient dans le Noussar Harizal. C'est pour ça qu'il y a très peu de différence. Quand vous prenez le Noussar Ashkenaz, par exemple, chez eux, Baruch Shamar, ça va en doux. D'accord. Vous avez plein de différences comme ça qu'on se retrouve pas, quoi.
Donc vous, ça ne vous bouscule pas trop, alors, par rapport à votre...
Pas du tout. Je vous dis que le Patach Eliyahu ou le Tehillat Hashem, c'est pratiquement la même chose. C'est deux variantes du Noussar Harizal. D'accord. C'est pour ça, quand les gens ils vous disent Ashkenaz, Sfarad, c'est du pipeau. Parce que nous ici, c'est du Noussar, peut-être les airs ne sont pas les mêmes, c'est possible. Bon, ça, ouais, mais le Noussar, c'est des variantes du Noussar Harizal. Quand l'Admor HaZaken a composé son livre Tehillat Hashem, il a dit qu'il s'est basé, à son époque, il y avait 70 versions qui existaient du Noussar Harizal, de la version du Harizal. 70 versions.
Et lui, bien sûr.
Je sais pas, il a dit comme ça, il a témoigné qu'il y avait 70 versions et que lui, il a fait du tri. Donc il a vu ce qu'il pensait qui était bon, ce qu'il pensait qui était pas bon. Et de ça, il a fait son sidur Tehillat Hashem. Et curieusement, il y a beaucoup de similitudes entre le Tehillat Hashem et le Sidour Ish Matzliach. Énormément de similitudes. Entre des choses que j'ai vues, hein, entre, ça veut dire des choses qui ne sont pas comme le Patach Eliyahu, qui ressemblent entre le Tehillat Hashem et le Ish Matzliach. Le Ish Matzliach, c'est un livre qui a été composé par le Rav Mazouz, et le Rav Mazouz, on peut dire que le projet de sa vie, c'est le Sidour. D'accord ? Donc il a fait des enquêtes sur des textes, etc. Et il témoigne dans son livre, le Ish Matzliach, il dit qu'un des livres qu'il pense qui est assez fiable, c'est le Tehillat Hashem. Ah bien sûr, il ne le suit pas, parce que le Rav Mazouz c'est un Tunisien, et le Sidour Tehillat Hashem, c'est Chabad. Mais pour vous dire que le Tehillat Hashem, c'est un Sidour qui est très très recherché. Donc, chaque mot est pesé. C'est un Sidour qui a été filtré. Donc, le Ish Matzliach aussi. Je pense que le Sidour Sfarad aujourd'hui le plus fiable, c'est le Ish Matzliach. À mon avis. Hein. Le Ish Matzliach aujourd'hui, c'est le Sidour Sfarad le plus fiable. Il y a aussi...
Sidour pas fiable, c'est la
guitare. Non, ça veut dire qu'après, regarde.
Il est épuré.
Par exemple, tu prends un Sidour comme le Patach Eliyahu. D'accord ? Patach Eliyahu, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Patach Eliyahu, c'est un imprimeur, d'accord, qui s'est basé sur un livre qui s'appelait Tfilat HaKhodesh, d'accord ? Maintenant, c'est un livre que t'as beaucoup de gens qui te diront qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont tordues, c'est-à-dire qui sont tordues ou qu'on personne suit, d'accord ? Par exemple, je te donne un exemple.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il a mis les adaptations.
Mais voilà, il a mis les. Donc il est devenu populaire, pas parce que c'est un Sidour qui est au top, parce que c'est un Sidour qui a été bien imprimé.
On avait rien.
Attention, il est bien fait, hein, je critique pas Patach Eliyahu, mais je dis que c'est pas forcément une référence en halakha. Je donne un exemple. Par exemple.
Et il s'est mouillé dans les caractères ici, d'imprimerie aussi.
Dans le... voilà. Vous avez ici, par exemple, juste après le vendredi soir. D'accord ? Le vendredi soir, juste après le Mizmor les David. Vous avez ici Artava Khesat de Fulikoy Mechaev, Shafti Vetachem et Lorich Lamine. Il y a un Kaddish à faire.
Ouais.
Qui c'est qui fait ce Kaddish ?
C'est pas marqué. D'après.
D'accord ? Alors, dans les faits, aujourd'hui c'est les endeuillés qui le font. D'accord ? Chez les Tunisiens, c'est l'officiant qui le fait. Mais il fait le Kaddish chez Lama. Ici dit l'officiant. Ouais. Mais pourtant personne ne le fait. Chez les Chabad, vous avez remarqué, ce qu'on fait tous les vendredis soirs, on fait le demi-kaddish, juste avant Alenu. Mm. Pour vous montrer des variantes comme ça, qu'il y a des choses qui changent. Donc, on ne faut pas croire qu'il n'y a pas de différence, il ne faut pas croire qu'il y ait une seule référence. Il y a beaucoup de choses qui changent.
Et que
pas
tout le monde suit.
Oui, Shamiro. Donc Bezrat Hashem, on arrivera à tout ça.
C'est pas que vous, hein.
D'accord. Alors.
Je recommandais de ne pas le faire.
Donc, bon, ça, on y arrivera. Bezrat Hashem, on arrivera.
À tout en même temps.
Alors, de manière générale, il faut savoir qu'avant même d'arriver à la différence entre le Noussach Ashkenaz et le Noussach Sfarad, d'accord, donc entre la tendance Ashkenaz et le Sfarad, il faut savoir que déjà à l'époque, juste après la Gemara, on avait déjà une différence entre les habitants de Babylonie et les habitants d'Eretz Israël. D'accord ? Là, c'est la Gemara qui témoigne, d'accord ? La Gemara témoigne, elle nous dit comme ça, elle nous dit que, par exemple, en Babylonie, la dernière bénédiction de la Mida, on l'a finisé par Amvarer et Amo Israël Bachalom, comme aujourd'hui. D'accord ? Amvarer et Amo Israël Bachalom. En Eretz Israël, comment on terminait à Baruch Ata Hashem, Osea Shalom.
Ah ouais.
Osea Shalom, c'est tout. On s'arrêtait comme ça. D'accord ? Voilà un autre exemple. En Babylonie, la bracha qui a pris le Kriat Shema, on disait Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Comme chez nous. En Eretz Israël, comment on disait ? Baruch Ata Hashem, Meler Tsur Israël Vegoalo. Gaal Israël, alors ça se ressemble. Gaal Israël, ça veut dire celui qui a libéré Israël. Et en Eretz Israël, on disait le roi qui est le Dieu d'Israël et qui le libérera. Et qui le libère. Donc ça se ressemble. Mais vous voyez comment, c'est des exemples que je vous donne dans lesquels on voit une différence. Donc ça a déjà été une base pour plusieurs différences. On a une différence entre les habitants d'Eretz Israël et les habitants de Babylonie.
C'est pas énorme.
Ensuite, c'est pas énorme, mais pour vous dire, il y avait déjà des différences à cette époque-là.
D'accord ?
Le premier sidour qu'on a connu, qui a été imprimé, qui a été fixé, c'est le sidour de Rav Amram Gaon, donc à l'époque des Géonim. Donc il y a plus de 1000 ans d'aujourd'hui. Plus de 1000 ans. Durant 1100 ans. Ce sidour-là, il était appelé Mizdar Tefilot Israël, c'est-à-dire l'ordre des Tefilot du peuple juif. Ce sidour-là était basé principalement sur le Noussach de Babylonie. D'accord ? Ce sidour-là est la base pour le Noussach Sfarad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on remonte le Noussach Sfarad aujourd'hui, donc il vient du Arizat, quand on remonte jusqu'au haut de la chaîne, où on arrive au sidour de Rabbi Amram Gaon. De Rav Amram Gaon. C'est lui le premier. C'est lui le premier qui a lancé ce sidour-là. Donc Rav Amram Gaon, et ensuite par la suite il y a eu le Arizal, etc. Et on arrive au Noussach Sfarad qu'on a aujourd'hui. Le sidour, deuxième sidour qui est sorti à cette époque-là, c'est le sidour de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, donc toujours à la même époque, d'accord? Rav Saadia Gaon, au début de sa vie, il habitait en Égypte. En Égypte, à ce moment-là, on suivait les minagim d'Eretz Israël. Donc, naturellement, d'accord, dans son sidour, il a suivi principalement les minagim d'Eretz Israël, pas de Babylonie. Alors, il a suivi, c'est intéressant, parce qu'il a suivi un peu de minagim de Babylonie, mais principalement les minagim d'Eretz Israël. Ça, c'est le deuxième sidour qui était connu à l'époque. Troisième sidour qui était connu à l'époque, donc le dernier, c'est le sidour qui s'appelle Marzor Vitri. D'où il vient ce nom Marzor Vitri? C'est un sidour qui vient du Beth Amidrash de Rashi.
Vitri le François.
D'accord, Rashi. D'accord. Alors, pourquoi c'est un sidour intéressant? Puisque c'est un sidour intéressant, puisque lui aussi se base en grande partie sur le Noussar de Eretz Israël, donc sur le texte d'Eretz Israël, mais il a rajouté quelques variantes du Ménage de Babylonie. De manière générale, le Noussar de Eretz Israël, c'est lui qui a été à la base du Noussar Ashkenaz. Donc c'est de là qu'on a eu les grandes tendances. On a eu Babylonie, Eretz Israël, et c'est ça avec le temps qui a fait qu'on a eu Ashkenaz et Sepharad. Alors comme je vous ai dit, entre temps, en cours de route, on a eu des variantes. Pourquoi on a eu des variantes? Parce que il y a eu des fois le Noussar Ashkenaz qui a pris un peu du Sepharad, et le Sepharad qui a pris un peu de l'Ashkenaz. C'est pour ça qu'on a tellement de variantes dans les Sidourim. Mais à la base, le Noussar, c'est la différence qu'il y a entre Noussar Ashkenaz et Noussar Sepharad, c'est une différence qui existe depuis l'époque de la Gemara, c'est la différence qu'il y a entre le Noussar de Babylonie et le Noussar d'Eretz Israël. D'accord? Bon. Quelle heure il est?
Non.
Bon, je ne vais pas t'en aller.
C'est dans les faits que vous avez beaucoup de différences.
Oui, on va y arriver. Bon, malheureusement, il nous faut encore un... Enfin, pas malheureusement, bien heureusement. Il nous faut encore un cinquième cours pour l'introduction sur la Tfila. Parce que... On n'a pas du tout encore expliqué les différences qu'il y a, pourquoi il y a des textes sur lesquels on voit qu'il y a plus de différences que d'autres. Pourquoi? Ben, sur l'Amida, il y a très peu de différences. Mais sur d'autres textes, on va voir qu'il y a plus de différences entre les Noussars. Pourquoi, comme vous dites, pourquoi pour les fêtes, il y a plus de différences que, pourquoi dans l'Amida des fêtes, et pourquoi dans les fêtes en général, il y a plus de différences que toute l'année.
Ça peut pas faire, d'accord, faire de la tête,
bon,
qui arrive en religion, qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, ça,
attendez. Non. Alors, j'ai pas encore parlé aussi du Noussar Arizal. Qu'est-ce que le Arizal a innové dans tout ça? D'accord? Qu'est-ce que le Arizal a innové? Bon, donc, Bezrat Hashem, il nous faut encore un autre cours, et dans lequel on va expliquer, est-ce qu'on a le droit de passer d'un Noussar à l'autre, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on découvre qu'en vérité, les différences qu'il y a entre Noussar Ashkenaz et Noussar Sepharad, qui sont les deux grandes tendances qu'il y a aujourd'hui, sont principalement basées sur une différence qu'il y avait déjà, sur des textes qui ont été composés déjà localement, juste après l'époque de la Gemara, en Babylonie, en Eretz Israël. Et c'est ça ce qui a formé par la suite la différence qui est entre Ashkenaz et Sepharad.
Et pourquoi on te dit par exemple que si tu ne suis pas tes minagim, c'est très gras, c'est
oui,
très dangereux.
On va y arriver. On va y arriver.
Minagim.
Ouais. Justement, on va arriver.
Ça aussi, ça fait peur après, la tête. Ça.
Qu'on va arriver.
Ce sidour, c'est ton minagim. Quand on est revenu ici, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Rappelle-toi, à l'époque, pour celui qui était là au départ.
Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire comme ça. Comme je vais expliquer qu'il y a deux tendances. Il y a Noussar Ashkenaz et Noussar Sepharad. Donc, dans une même tendance, dans Noussar Sepharad, par exemple, passer d'une variante à l'autre, d'accord, c'est beaucoup plus facile que de passer carrément du Noussar Sepharad au Noussar Ashkenaz. Vous me suivez? Ça veut dire, si quelqu'un il est déjà dans une variante de Sepharad et il passe dans une autre, ça c'est pas grave. D'accord? Mais passer d'un Noussar à l'autre, ça c'est plus compliqué. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de comprendre et de savoir que, en vérité, le Patach Eliyahu et le Tehillat Hashem sont les deux Noussar Sepharad.
On est dans une variante.
D'accord? On est dans de la variante, on n'est pas dans deux Noussar différents. D'accord? Parce que le Patach Eliyahu est un riz du Arizal, et ça aussi c'est un riz du Arizal.
Non, mais c'est très important.
D'accord? C'est très important à comprendre ça. Donc, halakhiquement, il n'y a aucun problème, aucun problème. Si on serait passé d'un Noussar Sepharad à un Noussar Ashkenaz, là, peut-être éventuellement, il y aurait un problème d'après certains avis.
D'accord.
Et on verra, on va en parler la semaine prochaine.
Alors, les Ashkenazim qui suivent le Beit Rabban, ils ont un problème.
Alors, on va en parler. Ça, on en parlera la semaine prochaine dans ta chaîne, parce que j'ai pas, en vérité.
C'est ça leur problème, s'il y a eu la guerre qu'il y a eu chez eux.
Oui.
C'est qu'ils auraient été mis à l'index, les chassidim.
Ce qui s'est passé, voilà.
On verra.
Ce qui s'est passé, pourquoi les chassidim ont été mis à l'index? Parce que les chassidim, ils ont instauré le Noussar Arizal chez les Ashkenazim. On leur a dit, mais attendez, nous c'est Noussar Ashkenaz, c'est pas Noussar Sepharad. D'accord? Donc ils ont été attaqués. Donc regardez comment c'est marrant. C'est que les chassidim en Russie, en Pologne, etc. Et ils ont été, et en Lituanie, ils ont été, on leur a reproché d'appliquer le Noussar Sepharad aux Ashkenazes. Et maintenant c'est le contraire. Alors, vous voyez, quand on voit l'histoire, on voit
que
oui.
Que ça, c'est Ashkenaz.
Bien sûr.
Ils ont fait une passerelle, en fin de compte, si je peux naïf.
Bon, alors, on va en parler. On a même pas, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a juste, on a à peine eu le temps de montrer
le
la
début,
base.
Du début, ouais.
Le début du début. Mais après, ouais. Il faut développer qu'est-ce qui s'est passé après. Hein. Il y a eu 1000 ans qui sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans?
Alors, pourquoi? Une question, pourquoi la Kedusha, elle est présentée comme ça? Alors qu'en fait, c'est évidemment très très important, mais moi
oui.
J'ai compris très tard que c'était c'était le cœur de la Mila en public. Et alors que certains paragraphes sont présentés en gros, tu vois les différentes...
Ah ça c'est de la...
Non,
c'est,
la présentation, c'est, oui.
C'est de l'imprimerie, ça.
Non, mais justement, il ne devrait pas faire ce qu'il veut.
Parce que les gens pensent que c'est moins...
C'est moins important.
C'est un petit... Oui,
exactement.
Au début, j'ai eu cette impression. Après, on m'a expliqué.
Évidemment, oui.
Mais
voilà.
Tu as raison. C'est
intéressant, jamais...
C'est même dangereux.
Oui, non, mais ça n'est pas qu'il attache M aussi. Ça a été limité.
Et voire même...
C'est écrit en petit.
Ce qui est...
C'est la calligraphie, c'est tout, hein.
Non, mais justement, c'est ce qui est répété ou ce qui est dit en public ou lu, ça devrait être aussi indiqué.
Bah en général.
Là, c'est parce qu'il n'a pas eu la place, je suis imprimeur. Hein,
ouais.
Il n'a pas eu la place et il voulait tout mettre sur la même page.
Non, en général, en imprimerie, monsieur Guigny, en général, en imprimerie, quand on veut attirer l'œil sur quelque chose, on le fait ou plus grand ou plus petit. Là, par exemple, la Kedusha, il ne voulait pas qu'une personne lambda qui vient pour commencer sa Amida, qui lise la Kedusha.
Oui, mais excuse-moi, il l'a fait simplement pour que tout rentre dans la même page.
Peut-être.
Ça, je peux te dire.
Non, ouais, mais il aurait pu attaquer Kadosh,
je te parle de la Kedusha, la répétition.
Il faut lui demander, il est encore parmi nous. Hein.
Attendez. Mais Charbit, on va lui demander, tu verras Charbit quand il a
envie. Allô.
Regardez bien quand il met un
on s'arrête ici pour aujourd'hui.